que chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un roach, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide...
Putain, mais de quoi il parle, ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joueur ressemble à un cafard. Tu te merdes.
Tous les lundis, à 21h, sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Allô, allô. Allô, allô. Ah, allô, allô. Eh oui, c'est bon, on a un petit souci de micro.
Voilà, donc on est bien sur Cannabis Circus, en direct et en live, comme toujours.
Donc, bien, bonsoir à toutes et à tous.
Oui. Voilà, sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et nous allons vous faire un petit Cannabis Circus, comme un peu tous les lundis soirs, avec... de l'actualité, avec ce qui se passe un petit peu au niveau juridique, la bataille entre Pécresse et Esther Benbassa, voilà, avec une petite brève de Guillaume Canet qui nous fait rire, il découvre le monde. Et puis après, on ira voir un petit peu ce qui se passe ailleurs avec les Philippines ou Copenhague. Et puis, bon, peut-être un truc sur Grenoble aussi, un journaliste un petit peu bizarre, mais on parlera peut-être de,
pas très au point,
de ce Julien Morin qui, pour lui, dépénaliser le cannabis déplacerait la question. Voilà, c'est un avis. Et puis surtout, je pense qu'on va arriver à le traiter aujourd'hui, puisqu'on le repousse depuis quelques temps. Un petit article d'un maître de conférence du CNRS.
Renaud Colson, dont on vous a parlé voilà, au moins depuis, Colson, on vous parle depuis au moins un mois, et dont on n'a pas pu lire la contribution dans theconversation.com. Ce soir, comme on a une revue de presse pas hyper épaisse, on devrait pouvoir aborder l'article dans son intégralité. Voilà. Voilà, voilà. Et aussi au sommaire, ce soir, on ira faire un petit tour aux Philippines où il faut vraiment qu'on se paye le nouveau président philippin.
Le nouveau dictateur, tu veux dire ?
Pardon ?
Le nouveau dictateur.
Le nouveau dictateur, ouais. Je trouve que t'es même trop gentil avec ce terme de dictateur. Tyran, je trouve que ça irait mieux. Et tyran débile, en fait, même, ça serait encore mieux. Rodrigo Duterte, voilà, on vous expliquera pourquoi. Il est... complètement à la masse, ce gars, quoi. Voilà. Les Philippines, c'est aussi un grand pays démocratique. Et je vous assure que quand on voit ça, mais bon, ceci dit, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis avec Trump, et également dans notre pays avec Le Pen, Zemmour et consorts et tout. Enfin, en tout cas, là-bas, aux Philippines, quand on voit ça, ça fait quand même douter. C'est peut-être pas bien ce que je vais dire, mais ça fait douter de la démocratie, en fait. Franchement, hein. Si c'est pour élire, si la démocratie, ça sert à élire des abrutis pareils, ça vaut pas le coup, quoi. C'est vraiment terrible.
Ouais, des gens dangereux, oui, tout à fait.
Voilà. Mais bon, on reviendra dessus. Voilà. Voilà un peu le sommaire. Avant de partir écouter un peu de musique, je mis cette petite brève en une de notre revue de presse, qui un petit article de la nouvellerépublique.fr, hein, ça se passe dans l'Indre-et-Loire, pas loin de Tours. C'est l'histoire d'un contrôle routier tout bête qui a d'abord lieu le 12 mai 2014, donc il y a à peu près 2 ans et quelques. Il s'agit de Christ, 24 ans, un individu originaire du Congo-Brazzaville, en règle en France, hein, avec tout ce qui va bien. Enfin bon, bref, il est repéré en train de glisser quelque chose dans ses chaussettes. La police, donc, lors de ce contrôle routier, découvre dans ses chaussettes 10 morceaux de résine de cannabis, du shit, donc pour environ 32,80 grammes. Il est placé en garde à vue, il déclare qu'il a acquis ce produit pour une valeur de 160 euros pour sa conso personnelle, qui fume environ 4 à 5 pétards par jour depuis un mois, et notamment depuis l'AVC de sa grand-mère, de sa mère, pardon. Alors, et il a visiblement
il a même balancé le nom,
de son vendeur, ouais. Alors, il est quand même cuisinier, il est marié, père de famille, il a été jugé en correctionnel à Tours. Il avait pris 2 mois ferme, c'est ça, hein ?
Tout à fait, le 6 janvier 2015.
Voilà. Et il avait fait appel, donc là c'était l'appel, mais le ministère public avait aussi fait appel. Mais là, le 27 juin, il ne s'est pas présenté, et il n'était pas représenté non plus, ça craint, il ne faut pas faire ça, je vous assure, franchement, si vous avez affaire à la justice, payez au moins un avocat ou prenez l'aide juridictionnelle, faites-vous représenter, mais si vous êtes absent, ça craint, quoi. Voilà, et en plus, il est venu sans excuse, bref, il n'a pas fait ce qu'il faut pour se faire représenter, hein, tout simplement. Il avait un casier judiciaire et pour la justice, les histoires de drogue, c'est grave. Hein. Je cite l'article devant la gravité des faits et donc les dimensions figurant à son casier et sa personnalité. Alors, on ne sait pas laquelle. Hein. Visiblement, à part être cuisinier, père de famille et marié, ça ne veut pas dire qu'il a une personnalité extraordinaire ou pas. Enfin bon, bref. Donc selon sa personnalité, son casier judiciaire, le procureur a requis 3 mois ferme. La cour a suivi les réquisitions du procureur. Voilà. Donc, un peu de cannabis, un casier. On se présente pas à l'appel et ça finit en ferme. Voilà. Et en plus, c'est pas rien.
J'ai pris 2 mois ferme quand même. Donc là, c'est 2 mois ferme, c'est pas beaucoup plus, mais bon.
Et j'ajoute une dimension d'origine ethnique. En plus, il est noir et ça fait encore moins devant les tribunaux français blancs. Voilà, ça se passe comme ça aussi, et il faut pas déconner avec la justice, quoi. C'est tout. Voilà, je voulais juste dire ça. Encore une fois, un exemple, voilà, de ce qui peut arriver dans les tribunaux de notre pays. Et il y en a des affaires en ce moment. Il y en a. Si je devais faire une revue de presse tous les dimanches soirs, en reprenant les affaires d'arrestation, de saisie de plans, surtout qu'en plus c'est l'époque, hein. Il y en aurait 10 pages. Voilà. Donc, faites gaffe, encore une fois. On le dit toutes les semaines, mais faites attention. Soyez discret, soyez stratégique, malin. Voilà. Ouais, il y en a qui font pas attention.
La plupart des affaires, c'est de la culture en ce moment.
En ce moment, beaucoup, ouais. Beaucoup. De la culture, et comme tous les ans, au milieu, des affaires de jeunes qui vont voler. Des gens qui cultivent et qui se font choper par la police parce que ils sont vraiment très 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 peu prudents, voire même je sais pas quel mot employer, mais voilà, il y a quand même eu un cas là pas très longtemps de 2 jeunes qui ont braqué un cultivateur et qui sont sortis dans la rue avec des sacs à dos pleins et ça déborde, et la gendarmerie passe dans le quartier pour aller chez quelqu'un pour une raison qui n'a rien à voir avec du cannabis. Et comme par hasard, les gendarmes croisent ces jeunes qui sortent du jardin comme ça. ça peut pas se passer autrement que par une arrestation, une mise en garde à vue, si on procède de la sorte. C'est pas possible.
Voilà. Et en plus, le cultivateur a dû être embêté.
Tout à fait, il a été... Bah, parce que les jeunes ont... C'était des jeunes, hein, donc ont dénoncé le cultivateur volé. La police, les gendarmes sont ensuite rendus chez le cultivateur volé, qui a été lui-même mis en garde à vue. Et tout le monde se retrouve avec une convocation au tribunal dans les prochaines semaines pour répondre les uns du vol et l'autre de culture et de consommation. Et voilà. Bon. C'est. Encore une fois, des avatars de la guerre à la drogue, tout ça, quoi. Tout simplement. Voilà. Allez, musique et on revient tout de suite.
Take it home.
S'écouter William Strafik, donc Eastside.
Merci, un petit morceau de dub bien sympa pour commencer l'émission. Allez, on va se marrer un petit coup là avec. On revient un petit rapidement hein, sur l'histoire du fils de Valérie Pécresse, fils qui s'est fait choper en train de fumer du cannabis ou en train de rouler un joint devant.
Dans la rue,
oui. Voilà. Et donc, cette affaire n'est pas restée comme ça sans rien. Hein. Esther Benbassa, sénatrice écologiste d'Europe Écologie Les Verts, a été au courant de cette histoire et très judicieusement et avec, je dirais, un certain humour, même si peut-être c'est pas son intention d'avoir fait ça sur le ton de l'humour, mais j'aime bien moi. Donc Esther Benbassa invite via Twitter, c'était sur Twitter, hein, oui, c'était alors oui, c'est pas, dans un message posté sur Twitter, elle invite cordialement Valérie Pécresse et son fiston à participer à un colloque organisé le 10 octobre prochain sur la légalisation du cannabis au Sénat. Voilà, c'est formidable, je trouve. Elle est formidable cette Esther Benbassa. Qui, à mon sens, hein, est la seule politicienne aujourd'hui en France qui va au carton sur des sujets ultra polémiques. L'histoire du cannabis, l'histoire du travail sexuel également, il y a deux ans. On peut que la saluer. Et donc, je vous cite hein, ce qu'elle écrit. Voilà, j'invite cordialement Valérie Pécresse et son fiston au colloque que j'organise le 10 octobre sur la légalisation du cannabis, donc au Sénat. Voilà. Voilà, c'est tout.
Le thème, c'est la légalisation du cannabis. L'Europe est-elle condamnée à l'impasse ?
Tout à fait. Ce qui nous permet de faire le lien et d'embrayer tout de suite sur un petit communiqué de presse du cirque.
Oui, juste avant quand même.
Ah, excusez.
Parce que la réponse de Valérie Pécresse est quand même très,
oui,
très
mais
forte.
C'est la même qu'on a.
C'est la même que la semaine dernière. Mais, elle demande juste le respect de la vie privée pour son fils majeur et pour sa famille. Voilà, elle rappelle que la loi s'applique à lui comme elle s'applique à tous.
Ce qui n'est pas vrai déjà en plus.
Ça serait bien.
Ça serait vrai, parce que là déjà il y a déjà une discrimination. Il y a beaucoup de jeunes qui se font choper, qui finissent même en prison. Voilà, donc déjà là il y a une discrimination en faveur du fils de Pécresse là, pour ce cas-là. Quoi. Et bon. Alors, donc, j'embraye, le communiqué de presse du cirque, octobre qui sème du chanvre récolte la régulation, si seulement. Alors, c'est un petit agenda, hein, un agenda pour vous mettre au programme un peu, vous informer de certaines choses qui vont avoir lieu ces prochaines semaines.
Sur Paris, malheureusement.
Sur Paris, voilà. Donc, alors, on commence le vendredi 7 octobre. C'est la prévention qui est à l'honneur avec les consultations jeunes consommateurs qui fêtent donc le 7 octobre leurs 10 ans, voilà, qui ont été mises en place en 2006. Le lundi 10 octobre, ça sera donc au Sénat avec cette journée exceptionnelle de débat organisée à l'initiative donc de Esther Benbassa avec la complicité du CNAM et de Sciences Po Paris, légalisation du cannabis, l'Europe est-elle condamnée à l'impasse, hein, comme tu disais, avec au programme de nombreux intervenants, d'ailleurs que des hommes, par ailleurs. Michel Alexander aurait été invité, ça aurait été super bien quand même, mais bon. Donc il y aura des sociologues, des addictologues, des pneumologues, des universitaires, des économistes et un ancien ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, hein, je pense, c'est pas marqué, mais je pense que ce sera, et de prestigieux invités étrangers, dont un professeur de criminologie dans Montréal, un économiste, et Ethan Nadelman, donc directeur exécutif et fondateur de la Drug Policy Alliance, principale organisation anti-prohibitionniste nord-américaine, avec le Normal, hein, je rajoute, parce que le Normal a également joué un grand rôle dans la légalisation au Colorado. À noter cependant la remarquable absence d'associations d'usagers, donc du cirque, pas conviés, hein, dans un débat censé être ouvert à la société civile à laquelle nos organisations participent pourtant activement depuis un quart de siècle. Et oui, c'est comme ça. Mardi 11 octobre, le rendez-vous, cette fois-ci, c'est à l'École des hautes études en sciences sociales qui organise des séminaires en 2016-2017 en partenariat avec SOS Addiction, ASUD et le CNRS sur le thème de la guerre à la drogue et aux nouvelles pistes de régulation. Pareil, sociologue, anthropologue, addictologue, historien et Ethan Nadelman, hein, s'il vient pour le 10, il sera là pour le 11, forcément, on va pas repartir si vite. Nadelman, chantre de l'anti-prohibition aux États-Unis. Voilà. Noyé dans une actualité, hélas, auto-centrée sur des primaires présidentielles, nous espérons cependant que ces différents événements sauront trouver un écho important dans les médias. La question des drogues en général et du chanvre et du cannabis en particulier représentant un sujet des plus importants à l'aune des graves conséquences que leur prohibition produit depuis sa mise en place. Il est temps que les responsables politiques sortent des clichés, abordent le sujet frontalement et rationnellement et fassent surtout preuve de courage face à une opinion publique sans doute plus prompte à comprendre les enjeux et admettre la nécessité de changer de politique qu'on ne le pense. En tout cas, beaucoup plus prompte que les politiques... On est sûr. Donc voilà, je rappelle, ça commence le 7 octobre, bon, avec la prévention et les consultations jeunes consommateurs. Voilà, bon. Mais surtout, rappelez-vous, hein, lundi 10, donc au Sénat, lundi 10 octobre, et mardi 11 octobre à l'École des hautes études en sciences sociales. Voilà, c'est les deux rendez-vous principaux. Si ça vous intéresse d'entendre des gens qui, à mon avis, disent des choses plus intelligentes que la plupart, voire que la totalité des politiciens sur le sujet, à l'exception de quelques-uns et de quelques-unes, dont Esther Benbassa, dont on vient de parler, eh ben, viendez-y. Voilà. Voilà, voilà. Pour ce qui est des petites réjouissances à venir dès lundi prochain. Maintenant, vite, on va s'intéresser, pas besoin qu'on...
Guillaume Canet.
Voilà, qu'on passe des heures dessus, mais c'est Guillaume Canet, visiblement, qui sort pas trop de chez lui, hein, qui voit pas trop ce qui se passe ailleurs, qui est pas très informé. Et donc, il se trouve que Guillaume Canet, il s'est retrouvé dernièrement à Los Angeles, en Californie. Et visiblement, il est passé à côté d'une boutique qui vend du cannabis médical. Alors, j'ai pas la photo, mais il y avait la photo hein, sur Internet, là, sur Facebook. Il est passé à côté voilà, d'un dispensaire de cannabis qui vend du cannabis à des fins médicales et qui s'appelle le Green Doctor. Et wow, il a trouvé ça trop classe. Il a écrit, il a tweeté le docteur vert, hashtag gazon béni. Voilà. Donc une remarque qui visiblement a fait rire de nombreux internautes. Peut-être qui, comme lui d'ailleurs, ignore qu'il se passe des choses aux États-Unis. Voilà. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'il ne le savait pas. Il a juste pu trouver ça super cool et en faire profiter ses abonnés. Voilà. Je ne sais pas s'il le savait ou pas. L'intitulé « L'incroyable découverte de Guillaume Canet », je ne suis pas sûr que ce soit si naïf de sa part, mais en tout cas, c'est comme ça que c'était présenté. Autre chose sur Canet ?
Non, pas grand-chose. On ne va pas passer...
Voilà. En tout
on
cas,
sur silence les autres histoires avec.
Non, on s'en fout. C'était pas un peu important, mais en tout cas, ça veut quand même dire qu'il connaît et qu'il apprécie peut-être ce monsieur.
Peut-être.
Voilà, voire certainement même. Hein. Voilà, mais bon, vous savez, en France, c'est une société à plusieurs vitesses. Donc, si vous êtes artiste, fils de politique et tout, bah, vous risquez pas grand-chose. Par contre, si vous êtes simple citoyen, là, vous risquez la prison, avoir des amendes et...
Surtout si vous venez d'une banlieue défavorisée.
Et en plus, surtout si vous venez d'une banlieue défavorisée et que vous avez un teint un peu basané. Ah, mmh. Ça vous aide pas non plus. Hein.
Voilà, mais on va revenir sur cet aspect-là avec une phrase assez marrante de notre ami du CNRS.
Renaud Colson, tout à l'heure, plus vers la fin de l'émission.
Qui parle de la gestion différentielle des illégalismes qui aboutit à des formes de discrimination socio-ethnique dans la répression.
Voilà, pour le dire bien correctement.
Que l'application de cette loi est raciste.
Voilà, merci.
Voilà, mais c'est du politiquement correct.
Ah, bah non, c'est du terme sociologique et scientifique. Voilà. Donc, on continue avec un article là de francebleu.fr qui reprend une interview de Frédéric Ploquin, qui est journaliste d'investigation à Marianne et qui a réagi mercredi dernier sur France Bleu Isère à propos de la situation de l'escalade de violence dans l'agglomération grenobloise, mais pas que.
Bah, principalement, quoi, ça part de là, hein, que oui. On est sur France Bleu Isère, Grenoble ou ouais. Isère.
Donc forcément.
Puisqu'il y a eu quand même pas mal de règlements de compte. 6 personnes ont été blessées depuis le début du mois et il y a plus d'une quinzaine de règlements de compte, alors qu'ils ne sont pas terminés de façon aussi dramatique qu'à Marseille. Peut-être que les Grenoblois tirent moins bien. Mais en tout cas, les mêmes effets de la prohibition ont les mêmes causes de la prohibition ont les mêmes effets des batailles rangées dans la rue. Donc.
Ah bon ? Ça se passe comme à Marseille, alors même à Grenoble ? Non, c'est incroyable.
Et même à Lyon aussi,
oh,
il paraît.
Non.
Si, je ouais, t'assure. Non. Frédéric Floquin, donc. Lui travaille beaucoup, est spécialisé sur les questions de politique, du banditisme et du renseignement. Donc, et il a écrit Les gangsters de la République.
Les gangsters et la République.
Et la République, où il parle des connexions entre les bandits et les hommes politiques.
Pas possible, sérieux ?
Alors donc, le journaliste pose la question à cet autre journaliste. La légalisation du cannabis pourrait-elle réduire ces violences ? Alors, la réponse me plaît pas, mais bon, on va quand même vous la lire.
Pourri. Je sais pas de quoi il est...
Enfin, il laisse de côté le débat qui concerne les questions de santé, d'éducation, de contrôle, parce que je crois que ce serait extrêmement difficile à mettre en vigueur. Et ça se fait très bien dans d'autres pays, mais bon...
Ouais, France, si on n'y réfléchit pas à ça, c'est même pas la peine de commencer à réfléchir.
Comment est-ce qu'on ferait pour en vendre aux adultes et pas aux mineurs? Ouh là 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 là. Bah, c'est vrai que pour le tabac et l'alcool, on ne se pose pas la question, mais bon, c'est vrai que... de temps en temps, c'est vrai que moi, de temps en temps, je m'interroge, parce que quand il y a le débat de savoir si les lycéens ont le droit de fumer ou pas... dehors sur le trottoir ou dans la cour de récréation, ils ne devraient pas avoir de cigarettes, c'est interdit qu'ils en achètent, donc ils ne sont pas censés en avoir.
Bah en dessous de 16 ans.
18 normalement, non?
Le tabac?
Oui.
Je crois que c'est 16 ans, non?
Ah.
Ouais, non, mais tu as peut-être raison. Mais... Enfin, en tout cas, l'alcool, oui, il faut être majeur. Mais...
Voilà, et pourtant, bon, vous avez 14 ans, vous allez dans un supermarché, vous repartez avec une caisse de bière, personne ne vous dit rien.
Ouais,
ça dépend. Mais arriver qu'on vous dise quelque chose, mais souvent, on ne vous dit rien. Soyons raisonnables. Voilà, bon, moi, alors après, qu'est-ce qui pose comme question? Comment est-ce qu'on ferait pour contrôler la qualité du cannabis? Bah, c'est facile, on testerait. Hein. Comment on fait pour savoir la quantité d'alcool dans une bouteille? Bah, on teste. Hein. Est-ce que s'il est à vendre une sorte de cannabis d'une certaine qualité, vous n'avez pas les voyous qui se disent qu'on va vendre du meilleur et du moins cher? Bah oui, sans doute, surtout au début, mais les consommateurs, s'ils savent ce qu'ils consomment, ils préfèrent aller prendre un produit où ils savent ce qu'il y a dedans plutôt qu'autre chose, quoi.
C'est, le journaliste, là, il s'est un peu oui-oui quand même, hein.
Ouais, hein? c'est un petit peu du débile, quoi. C'est comme vous avez une bouteille de vin où vous savez pas ce qu'il y a dedans et une bouteille de vin où il y a marqué, où il y a une étiquette. Vous prenez plutôt celle où il y a une étiquette plutôt que d'aller prendre un truc où vous savez pas ce qu'il y a dedans. Mais bon, voilà, peut-être qu'il réagit pas pareil que nous, cet homme-là.
Non, mais je pense qu'il est très très mal informé, ou en tout cas, il s'informe pas du tout sur le sujet. Il raconte. Enfin, c'est oui-oui, le gars, quoi. Hein. Franchement. Hein.
Voilà, alors la deuxième chose, ils auront toujours besoin des territoires pour vendre de la cocaïne et de l'héroïne pour faire Frédéric Ploquelin, donc. oui, c'est pas le débat, mais en effet, il faudrait légaliser tous les produits d'une façon ou d'une autre, pas de la même façon, etc., etc., mais. Voilà, je laisserai parler les usagers de cocaïne ou les usagers d'héroïne ou d'opium ou de coca, pourquoi pas, voilà, pour savoir comment légaliser ces produits-là. En tout cas, pour le cannabis, on commence à avoir des petites idées et on a plus que commencé à avoir des petites idées. Mais en tout cas, ça se fait toujours pas, mais bon. Voilà, par ailleurs, il n'y a pas que le cannabis comme drogue.
Oh.
Bah oui, l'alcool est une drogue, monsieur. Mais bon,
le tabac aussi, les médicaments.
Voilà, pour lui, de légaliser le cannabis, cela déplacerait la question et ça poserait, à son sens, d'autres questions tout aussi importantes. Voilà, puisque Éric Piolle, le maire de Grenoble, voulait mettre ce débat sur la table.
Oui, Éric Piolle, qui est un maire Europe Écologie des Verts de Grenoble, qui a l'air d'être un gars bien. Un gars qui affronte tout un tas de problèmes, qui ose les affronter, qui s'intéresse à beaucoup de choses.
Voilà, donc la lutte contre les trafics de drogue fonctionne-t-elle ailleurs en France? Alors, ce qui frappe donc...
Monsieur Ploquin,
c'est que tout le monde s'est focalisé sur Marseille. Et il m'évite à la trappe, et on m'évite à la trappe, un certain nombre de faits qui se passent notamment à Montpellier, Lyon, en région parisienne, ou même à Grenoble. La police fait son travail à Marseille, démantèle des réseaux, etc. Mais le fait de déstabiliser en permanence ce milieu le génère en soi des règlements de compte. Il y a des guerres pour la reprise de contrôle des territoires. Ça, il me semble que c'est exactement la position des forces de l'ordre.
Ouais, ouais. Bah, c'est clair qu'à partir du moment où il y a un réseau, enfin un trafic qui est organisé et qui fonctionne, si on le dézingue, le réseau concurrent va vouloir reprendre la place. Va faire des jaloux, va vouloir se faire dézinguer par d'autres individus. Donc, oui, la lutte contre le trafic génère une désorganisation propice à des violences. Ça, c'est sûr.
Et pour lui aussi, il y a des contentions entre bandes rivales qui ne sont pas solvables
par d'autres
moyens que par la mort.
Exactement. Ça. Par contre, la fin de son intervention est assez juste à ce monsieur. Je trouve, par rapport à toutes les bêtises qu'il dit avant.
Vas-y, je te laisse finir alors.
Oh ben non, je sais pas. Non, c'est tout. Hein. Je sais pas ce que tu veux dire de plus.
Bon. Oui, parce que c'est vrai qu'il dit deux fois la même chose, c'est pour ça que...
Ouais.
Voilà, en tout cas, pour la justice s'en moque, et il laisse les dealers avec leurs propres règles, dit Frédéric Ploquin. Et vous avez beau mettre 20 ou 30 policiers en plus, quelque part, ils sont sur leur rail et attendent le bon moment pour régler leur compte. Voilà, donc... quoi qu'on fasse, a priori...
Ah ben, il y en a qui sont, quoi qu'on fasse, qu'on mette des policiers en plus, effectivement, il y a des gens qui sont prêts à en découdre entre eux pour reprendre le business. Et on mettrait même 50 policiers de plus, ça sert à rien.
Ils en découdront.
Ils ont des...
Ils en découdront, donc.
Ils en découdront, oui, excuse-moi.
Ils se tireront dessus, si tu préfères.
Voilà, exact. Bien, allez, un peu de musique, et on revient tout de suite après. Ah, fausse alerte, faux départ. Ça y est.
On vient de s'écouter donc Atlibe Tribe, Indian Trance. Et donc, on est toujours sur Radio Canut, dans Cannabis Circus, et on va enfin vous parler de ce fameux article de Renaud Colson, qui est maître de conférence de l'Université de Nantes, donc, qui parle des effets attendus d'une légalisation des drogues en France. Alors, c'est quand même un sujet assez intéressant. Et il commence par donner des définitions. Alors, la légalisation des drogues peut être définie contre la, comme la consécration juridique des libertés d'user, de produire et de faire commerce des produits psychotropes juste alors illicites. Moi, ce que j'aime bien dans cette définition, c'est qu'il ramène la liberté, ce qui est quand même assez rare dans les définitions qu'on voit sur la légalisation. Donc, il la distingue évidemment de la dépénalisation qui désigne l'assouplissement de la sanction pénale pouvant aller jusqu'à sa suppression pure et simple. Donc, la dépénalisation signale un processus d'affaiblissement de la répression, mais elle reste inscrite dans une logique prohibitionniste. Alors là-dessus, on a l'exemple du Pays-Bas, par exemple. Il faut le rappeler que là-bas, c'est toléré, donc c'est juste dépénalisé, puisque dans les textes de loi, c'est toujours interdit. Donc il faut quand même rappeler cette chose-là. On peut parler aussi dans la même logique de dépénalisation, on peut parler du Portugal, qui a dépénalisé depuis 10 ans.
Ou plus que ça, 15 ans.
Attends, plus de 10 ans, oui. Et donc, pays qu'on met un petit peu en exergue, parce que les résultats sont très bons, la consommation a plutôt baissé, et surtout, il n'y a plus de prisonniers à cause de simples utilisateurs en prison. Voilà, ils sont beaucoup plus laxistes sur le cannabis.
Bon, pas laxiste, plus tolérant.
Plus tolérant, pardon.
Laxiste, c'est
sur sur le cannabis. Non, mais c'était laxiste par rapport aux autres drogues comme les opiacés ou les coca ou là.
Les coca
ou
Pepsi
la coca,
et coca, c'est ça.
Voilà. La cocaïne et l'héroïne, sur lesquelles il me semble qu'ils font toujours un petit peu la chasse aux vendeurs.
Oui.
Alors, la légalisation, donc, contrairement à la dépénalisation, requiert au contraire une abrogation de l'interdit. C'est vraiment l'abrogation de la loi de 1970, une réelle légalisation. Donc, c'est la liberté d'user et c'est la fin et l'abrogation de la prohibition. La légalisation des drogues peut être organisée selon des modalités variées et plusieurs systèmes de régulation sont concevables. Une libéralisation totale de tous les stupéfiants, abandonnée à la loi de l'offre et de la demande, n'aurait assurément pas les mêmes effets que l'autorisation de certaines d'entre elles dans le cadre d'un monopole d'État encadré par de rigoureux dispositifs sanitaires. Alors, par exemple, et pour s'en tenir au cannabis, les rares expériences actuellement témoignent de la variété des modèles envisageables. D'ailleurs, il y a là législateur uruguayen, par exemple, qui requiert des consommateurs qu'ils s'enregistrent auprès des autorités et qu'ils s'approvisionnent alternativement dans des pharmacies fournies par l'État ou dans des clubs associatifs, ou dans le cadre d'une autoproduction quantitativement limitée. Donc ça, c'est l'Uruguay, c'est un des systèmes que nous on met en exergue parce que ils essayent d'éviter que les grosses multinationales viennent là-dessus. Ce qui est le contraire de ce qui s'est passé au Colorado, qui s'en remettent largement aux acteurs privés et tiennent à l'État à distance du marché, si ce n'est pour en encadrer l'activité et en taxer les bénéfices. Donc dans ces deux cas, Renaud Colson dit on ne peut pas en tirer grand-chose puisque ça fait que très peu de temps que cette légalisation a abouti. Et c'est vrai qu'on a que
peu de recul pour l'instant. Voilà.
Mais les premiers indicateurs sont plutôt positifs. Donc, la légalisation, qu'est-ce que ça changerait ? Donc, sur le point de vue juridique, la légalisation des drogues aurait pour conséquence l'abrogation d'un certain nombre d'infractions à la législation des stupéfiants. Ça coule de source, c'est un petit peu une napalissade. Mais du coup, ça réduirait d'autant la délinquance en raison de la fin de l'illégalité attachée à des comportements faisant aujourd'hui l'objet d'une incrimination pénale. Voilà, donc on songe par exemple aux millions d'infractions d'usage de stupéfiants commises chaque année en France. S'il est certain qu'une partie des activités de production et de distribution de drogue serait dès lors mise en œuvre dans un cadre légal, conformément à la réglementation en vigueur, le maintien d'un marché illicite résiduel ne respectant pas les normes établies est probable. Au moins dans un premier temps, mais on l'a vu d'ailleurs, tout à l'heure je parlais des Pays-Bas, quand ils ont voulu mettre à Maastricht, entre autres, ils ont mis en place la green card
le vite pass,
voilà. Du jour au lendemain, vu que les étrangers venaient à Maastricht pour trouver du cannabis, ne pouvant plus aller dans les coffee shops, et ben le réseau de rue a réapparu aussi vite qu'il
avait disparu. Comme par hasard.
Ou peut-être même plus vite qu'il n'avait disparu. Mais...
Ouais.
Voilà, bon, après, il y a toute la question sur les modalités du cadre juridique, du prix des taxes et du prix des sanctions pour ceux qui ne suivraient pas les règles établies. Donc tout ça est du domaine du législateur. Sur le plan économique, donc c'est le deuxième point qu'il soulève. Il est délicat de mesurer le potentiel de croissance qu'induirait une légalisation des drogues. Alors bon, d'un côté, il y aura sans doute de nouvelles filières d'emploi autour de l'industrie du cannabis. Pour ma part, je pense que ça devrait tourner autour de 500 000 emplois, ce qui n'est pas négligeable. Dedans, il y en aura sans doute 100 ou 200 000 de travailleurs saisonniers, comme pour le vin. Ou comme pour la récolte du vin, plutôt.
Pour les vendanges.
Pour les vendanges.
C'est ça dont tu parles.
Voilà. Et là, il faut. Alors, c'est pas le temps de vendange, mais c'est surtout le temps des feuillages. D'ailleurs, on a plusieurs personnes qui nous parlent de travail qu'ils sont allés faire aux États-Unis, dans le
Colorado. En Californie, on avait reçu un invité quelques années, ouais, qui avait bossé dans une ferme de cannabis dans le nord de la Californie.
Voilà.
Et qui était saisonnier, oui, tu avais raison.
J'en ai parlé avec d'autres, là. Quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui m'a parlé de quelqu'un qui s'était fait 10 000 dollars en deux mois. Donc. C'est des activités quand même assez lucratives.
Oui.
Pour les finances publiques, une telle réforme serait une source de nouveaux revenus générés par la taxation des drogues désormais légales. L'ampleur de récoltes pour l'État dépendra largement des modalités de la légalisation et elle demeure à cet écart très incertaine. Voilà. Mais l'exemple du Colorado atteste du fort potentiel fiscal d'une sortie de la prohibition. C'est vrai qu'on l'a estimé aux alentours d'un milliard d'euros pour la France. Donc je reprends ma lecture. La légalisation aurait aussi également pour conséquence une baisse des dépenses de la répression. Donc il met l'activité policière, judiciaire et pénitentiaire consacrée au traitement des drogues illicites perdant sa raison d'être. Donc il faut rappeler quand même que l'activité policière, c'est énorme. Et bon, les policiers seraient un petit peu embêtés pour faire du chiffre parce qu'ils n'auraient plus le chiteux à les attraper. Pour le judiciaire, il faut rappeler quand même que notre justice est complètement débordée et que les histoires de stupéfiants font au moins un tiers des affaires.
Quasiment, ouais.
Et enfin, pénitentiaire, dans la situation... de surpopulation qu'on a actuellement, ça permettrait de vider un peu les prisons et de faire en sorte que le nombre de prisons qu'on a actuellement, et qui est à mon avis largement suffisant, ne soit pas rempli à 100% et au-dessus du seuil de tolérance. Voilà, et donc ça c'était pour aller un petit peu plus loin sur l'activité policière, judiciaire et pénitentiaire consacrée au traitement des drogues qui changerait beaucoup. Une partie des ressources ainsi dégagées devrait nécessairement être orientée vers les services de l'État en charge d'organiser le marché légal sous la forme d'une régie nationale, soit d'une police des acteurs privés en charge de la production et de la distribution des drogues. Voilà. Après, l'incertitude pour lui demeure en revanche sur le coût externe des drogues, c'est-à-dire les montants des ressources gaspillées ou économisées par le fait de la légalisation, perte de production, perte de vie humaine, perte de qualité de vie. lequel dépendra largement des effets de la légalisation sur la santé des populations. Donc actuellement, vu qu'il y a quand même à peu près 5% des gens qui fument, tous les pays qui ont légalisé ne voient pas une augmentation du nombre de fumeurs. Donc le coût externe, à mon avis, serait équivalent à celui d'aujourd'hui. Par contre, sur le plan sanitaire, ça changerait beaucoup de choses, puisque du coup, on pourrait vraiment mettre en place des politiques de réduction des risques liés à l'usage des drogues, puisque lesquelles sont logiquement bridées par le principe prohibitionniste. Il rappelle ce qui s'est passé pour la distribution des seringues.
Oui.
Et des produits de substitution qui ont été très longtemps bloqués à cause de la prohibition.
À cause, on peut le dire, hein, à cause essentiellement, en tout cas à la fin des années 80, à cause de Laurent Fabius. Mmh. Voilà. Bon après, c'est terrible, hein, mais quand la droite est arrivée, Michel Barzac qui était ministre de la Santé sous Chirac, c'est elle qui a fait avancer les choses, Michel Barzac du RPR. Et oui, c'est incroyable, mais...
Voilà.
C'est comme ça.
On a toujours le même souci sur l'obstacle, sur l'ouverture des salles de consommation à moindre risque. Si c'était légal, donc on arriverait peut-être à sortir sur la contradiction des politiques anti-drogue par rapport à la santé. Voilà, comment le droit peut-il conférer un statut légal à des dispositifs destinés à sécuriser des conditions de consommation de produits dont l'usage est par ailleurs interdit ? C'est quand même une des contradictions de notre système qui fait qu'on ne peut pas avancer avec une prohibition aussi dure et assez absurde qu'actuellement.
Et oui, spécialité bien française.
Et donc, la légalisation permettrait de résoudre cette contradiction et favoriserait les programmes d'aide à la destination des populations fragilisées qui hésitent aujourd'hui à entrer en contact avec les services sociaux en raison de l'illégalité de leurs pratiques de consommation. Voilà, donc, ça serait d'autant plus important et intéressant, c'est qu'on pourrait vraiment travailler sur les gens qui abusent et pour des gens qui ont des problèmes avec ces produits. Ce qu'on ne va pas nier, hein, quand on entend certains psychiatres, certains psychiatres souvent, qui ne voient que des gens fragiles qui ont des problèmes avec le cannabis et qui considèrent que toute la population, que tous les gens qui fument du cannabis sont fragiles, quoi, ont des problèmes. Alors qu'ils ne voient qu'une infime minorité, ça permettrait de mieux remettre les choses à leur
place.
Moi, je trouve
en plus, même, tu dis ça, mais c'est même pas une minorité de gens qui ont des problèmes avec le cannabis, et ils voient une minorité de la population qui va pas bien. Tout simplement, et dont certains, effectivement, font usage du cannabis. Et comme ils vont pas bien, en en fumant, ils vont pas mieux. Voilà. Pas beaucoup mieux, même si certains s'automédiquent, on le sait. Et du coup, peut-être vont pas si mal, ou va peut-être un peu moins mal, je sais pas. Mais bon, voilà, tout simplement. Qu'ils voient pas une population représentative de la société, contrairement à ce qu'ils croient. Certains pensent croire.
Toujours sur le plan sanitaire et dans un autre registre, la création d'un marché légal des drogues donnerait lieu sous une forme ou sous une autre à l'institution de contrôle de qualité des produits distribués, éliminant de ce fait la circulation des drogues frelatées porteuses de risques importants pour la santé des consommateurs. Ce qui est assez important, rappelez-vous de tous les sheets coupés à tous les produits possibles et imaginables, entre la bougie, le pneu ou l'huile de vidange, ou même les herbes
coupées aux billes de verre,
ou mis avec de la colle,
des espèce produits de parfum, en plus, ou je sais pas quoi,
pour que ça soit plus lourd. Voilà. Donc, si l'on peut légitimement redouter une hausse de la consommation, celle-là n'est pas tout à fait certaine. Voilà. Donc, il rappelle que la prévalence de l'usage aux Pays-Bas. Où la vente de cannabis en coffee shop ne semble pas donner lieu à une consommation accrue à ce produit. Au contraire, même je rajouterais que chez les mineurs hollandais, ce sont quasiment ceux qui fument le moins en Europe.
Et la légalisation aux États-Unis dans les quelques États montre que les jeunes sont plutôt moins consommateurs dans les États où ils ont légalisé. Alors par contre, là où ils s'alarment un peu, ils pensent qu'il y a une augmentation, par contre, de la consommation chez les plus de 40 ans. Sauf qu'ils n'ont même pas pris en compte le fait que jusqu'ici, c'était interdit et les gens se planquaient, que maintenant, ça ne l'est plus, les gens ne se planquent plus. Ça ne veut pas dire qu'il y a une augmentation des gens qui consomment.
Tout à fait.
Voilà, mais alors ça, c'est un truc qu'on dirait que ils en tiennent pas compte. Ce qui est quand même un peu le béaba là aussi. Hein.
Voilà, donc tout ce qui devra être mis en même temps que la légalisation, c'est-à-dire l'interdiction de la publicité, l'interdiction de la vente aux mineurs, le développement de programmes d'éducation et de prévention, voilà, qui serait intéressant et qu'on pourrait peut-être encourager. Enfin, sur le plan sécuritaire, quoique le lien entre la criminalité et la drogue illicite soit bien établi du point de vue statistique, leur relation apparaît complexe et contre-intuitive. Il est ainsi établi que la répression des usagers revendeurs et des trafiquants et l'absence de régulation du marché, conséquence directe de la prohibition, explique d'une part importante des violences liées aux drogues. Donc avec la réglementation, cela affaiblirait les acteurs de la criminalité organisée et ça réduirait d'autant les risques de corruption des agents publics. Donc ça, la réglementation aurait quand même quelques intérêts.
Mais il n'y aurait que du bon, ça clarifierait une bonne fois pour toutes les choses.
Tout à fait.
Voilà, pour tout le monde. Policiers, consommateurs, usagers, travailleurs sociaux, psychologues, psychiatres. Voilà, ce serait clair. Comme si, comme ça, terminé.
En outre, le retour dans le giron de l'économie légale des revenus des ventes des drogues permettrait de réduire les flux d'argent sale réintroduits dans le système bancaire aujourd'hui utilisé pour blanchir une grande partie des produits illégaux. Hein.
Et on se demande si c'est même pas un peu pour ça que ça reste illégal. Hein ? Tu crois pas ? Finalement, cet argent sale qui devient propre, de l'argent qui sort de nulle part, qui n'existe pas, oui. Hein, on a bien vu que pendant la crise des subprimes en 2008, y a quand même eu une partie de l'économie et des banques qui a été sauvée par l'argent du commerce de la drogue.
Tout à fait.
Donc, bon.
Tout à fait, tout à fait. Enfin, sur le plan politique, il convient de ne pas sous-estimer les vertus pacificatrices de la législation.
Légalisation.
De la légalisation, pardon. La forme radicalisée de la prohibition qui exprime la rhétorique de la guerre à la drogue et l'accent punitif qui caractérise l'actuelle politique de lutte contre la toxicomanie n'est pas sans conséquence sur le lien social. Voilà, il rappelle ce que je disais tout à l'heure, la gestion différentielle des illégalismes qui aboutit à des formes de discrimination socio-ethnique dans la répression contribue à attiser les tensions entre les institutions de maintien de l'ordre et certains segments de la population. C'est une belle phrase, hein. Autrement dit, donc l'application à la carte de la prohibition par les forces de l'ordre,
à la carte, à la tête du client, donc à la tête du client plus ou moins basané, donc plutôt basané, vous en prenez plein la gueule, plutôt pas trop basané, vous pouvez passer sous les, enfin échapper aux fourches caudines de la loi.
Si vous êtes jeune ou vieux aussi.
Et si vous êtes jeune ou vieux, il vaut mieux être vieux que jeune d'ailleurs. Voilà.
Par ailleurs, donc la normalité sociale de l'usage de stupéfiants attestée par une consommation largement expérimentée et par le traitement complaisant qui lui est réservé
les médias de masse.
Les médias de masse témoignent du profond décalage entre la norme juridique et les mœurs. Ce décalage dont témoigne la cruelle absence d'effectifs et de règles. L'effectivité de la règle sape les fondements même du droit. Dans cette perspective, loin d'être le signe d'un renoncement de l'État à protéger sa population, une légalisation rigoureusement contrôlée apparaît au contraire comme un engagement fort au service de la santé et de la sécurité de tous dans le respect de la liberté de chacun. Voilà, moi ce que j'aime bien dans ce texte, c'est que par deux fois il parle de la liberté quand même, de la liberté de consommer, de la liberté d'être, hein, ça fait quand même partie, soi-disant, de notre triptyque, liberté, égalité, fraternité, et la liberté est durement mise à mal par cette loi.
Depuis
1970.
Voilà, depuis 46 ans, bientôt, parce qu'on fêtera le 46e anniversaire le 31 décembre de cette année, parce que la loi a été votée le 31 décembre 1970, on vous le rappelle, 7 députés seulement ont voté la loi le 31 décembre à minuit. 7 députés, vous avez bien entendu, 7. Voilà. Ils n'étaient pas là, les autres, ils réveillonnaient. Hein, ils en ont délégué 7. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, bon. Il nous reste 5 minutes. Alors oui, avant de terminer, je vous redonne l'adresse, si ça vous intéresse, si vous voulez relire ce texte. http://theconversation.com. Je vous le dis à l'anglaise, hein, c'est comme ça que ça s'écrit, theconversation.com, les effets attendus d'une légalisation des drogues. Un article qui a été mis en ligne le 7 septembre 2016, donc le mois dernier, et celui qui l'a écrit, c'est Renaud Colson, qui est maître de conférence à l'université de Nantes, fait partie du CNRS également, son unité de recherche, c'est l'UMR CNRS Droit et Changement Social. Voilà, donc le site theconversation.com. Voilà. Pour terminer, vous dire que au Danemark, à Christiania, vous savez, Christiania, c'est cette ville libre, une communauté depuis les années 70, une communauté un peu marginale, avec tous les hippies,
qui avait récupéré des anciens terrains militaires.
Voilà, où on a toujours prôné la tolérance et la liberté, bref. La liberté aussi de l'usage du cannabis. Sauf que les années passant, ce principe a été un peu battu en brèche, notamment par ceux aussi qui font le commerce du cannabis, puisque là, on était arrivé à un point où visiblement des organisations criminelles au point géraient ce business et faisaient beaucoup d'argent. Sauf que voilà, les habitants de Christiania sont pas contre de fumer du cannabis, donc cultiver. Par contre, ce qu'ils veulent pas, c'est de gros bandits qui viennent faire du business dans la ville, que c'est pas prévu, c'était pas du tout le projet au départ.
D'autant plus qu'ils ont commencé à régler leurs comptes aussi à coup de fusil, ça pas
ouais,
du tout.
Ouais. Alors du coup, la population, ils sont 900 environ, ils en ont eu marre, ils ont cassé tous les kiosques de vente de cannabis.
Ils en ont discuté d'abord.
Alors, ils en ont discuté.
Ils se sont mis d'accord, ils se sont dit que c'était plus possible. Et là, du jour au lendemain...
Oui, ils ont foutu tout par terre, les kiosques.
La quarantaine de kiosques a totalement disparu.
Voilà.
Donc, par contre, dans Christiania, il est toujours... On peut toujours acheter du cannabis de la main à la main par des petits...
Artisans. Cultivateurs, vendeurs, voilà. Mais voilà, je trouve ça super. Voilà. Je trouve ça génial qu'ils se soient débarrassés de tout ce beans là. Voilà. Et pour terminer, donc, il nous reste 3 minutes. Ça suffira hein, pour Rodrigo Duterte.
Toxicomane.
Voilà. Donc, c'est Rodrigo Duterte, le nouveau président des Philippines qui a été élu le 9 mai. Qui s'est fait élire en proclamant et en promettant d'éradiquer les dealers des Philippines en disant voilà, vous les dealers, les braqueurs et les vauriens, vous feriez mieux de partir parce que je vais vous tuer. Voilà, il s'était fait élire, il avait promis ça aux élections, il a été élu sur ce programme. Alors voilà, Rodrigo Duterte, c'est un mélange entre Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, Donald Trump et Hitler.
Voilà.
On peut le dire, hein, lui-même d'ailleurs, hein, se compare à Hitler.
Tout à fait.
Alors c'est horrible, ce gars est horrible. C'est une horreur ce gars, c'est une raclure, je ne sais pas comment on peut dire ça. Rodrigo Duterte, donc voilà, il a dit que Hitler a bien massacré 3 millions de juifs. Il y a 3 millions de toxicomanes ici aux Philippines, je serais ravi de les abattre. Si l'Allemagne a eu Hitler, les Philippines auront, eh bien...
Eh bien, lui, Rodrigo Duterte.
Voilà.
Voilà, donc en tout cas, actuellement, il n'a pas encore mis ses menaces totalement à exécution. C'est pas à grande ampleur, c'est juste 36, quoi, c'est pas 30, il en est qu'à 3100.
3000 morts, c'est déjà pas suffisant pour toi ?
36 par jour.
Non, mais attends,
oui,
tu rigoles, depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai.
Oui.
Non, mais ce mec, c'est un criminel, quoi, il faut le dire.
Déjà. Puisqu'il en tuait déjà avant. Oui, c'est un criminel, il n'y a aucun doute, a priori.
Alors bon, il n'est pas très bien vu de la part de la communauté internationale. Il a quand même traité le pape et Barack Obama de fils de pute. Et il a adressé un doigt d'honneur à l'Union européenne il y a une dizaine de jours. Voilà.
Et puis il y a un autre article, l'Inde du temps aussi, où il parle des orphelins de la guerre de la drogue. Donc ouais. Il parle de
d'une famille
donc qui vivait un petit peu de vente
d'en fait
ouais. Qui avait arrêté justement depuis l'arrivée de Rodrigo Duterte. Il était allé au commissariat pour dire
la famille,
je l'ai
ouais.
fait mais je recommencerai plus.
Ah, ils avaient été dénoncés sur les conseils de voisins, ils sont allés se déclarer en disant voilà, on consomme plus, on n'en vend plus. Et ils avaient signé, ils s'étaient enregistrés. Et
mais un des commandos de la mort est passé la nuit
et les a butés.
Voilà. Le père et la mère devant leurs
enfants. Voilà. Merci Rodrigo Duterte. Parce que c'est ça qui se passe aussi. C'est pas seulement la police qui fait la chasse, c'est qu'il y a des gens qui se sont fondés à faire les vengeurs et la justice, qui voilà s'emparent un peu de la cause et qui eux-mêmes vont régler leurs comptes à des gens pauvres. C'est les Philippines, c'est l'un des pays les plus pauvres au monde. Les bidonvilles de Manille, c'est énorme. Il y a toute une partie de la population de Manille qui vit aussi dans le cimetière de la ville. Voilà. C'est un pays où il y a aussi beaucoup de corruption. Pourquoi ? Ben, c'est aussi un pays qui a été colonisé avec des grosses multinationales sur place qui font un peu la pluie et le beau temps. Qui font aussi en sorte que le pays n'arrive pas à mettre en place un système d'éducation, d'instruction pour le peuple. Enfin, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et donc, c'est pas étonnant, malheureusement, hein, de voir surgir comme ça un espèce de je sais pas comment appeler ce type là, ce Duterte là, de populiste criminel, hein, qui mène cette guerre à la drogue, alors là on peut pas dire autrement. Voilà, donc pour terminer cet article et notre revue de presse, il y a quand même eu 20 000 personnes qui ont été arrêtées, 700 000 individus identifiés comme consommateurs ou vendeurs de drogue qui se sont rendus aux autorités. Et il a fini par dire, ce Rodrigo Duterte, le problème c'est que je ne peux pas tous les tuer. Hein, ils sont tellement nombreux. Voilà, c'est horrible. Voilà, il y a donc 20 000 personnes qui ont été arrêtées, il y a eu 1234 suspects interpellés et plusieurs personnes, donc 3 000 morts également. Voilà, on espère que ce gars-là, je sais pas quoi qu'on peut espérer pour lui, qui se casse la jambe en sortant de chez lui, ou qui se tape la tête en sortant de la baignoire.
Qui meurt par où il pêche.
Qui quoi ?
Qui meurt par où il pêche.
Bon, bah,
c'est-à-dire qu'un de ces escadrons de la mort sans contrôle
se retourne contre lui.
Voilà, bon. C'est le mieux que je peux souhaiter aux Philippins.
Voilà, donc là-dessus, sur cette note d'optimisme, c'est là-dessus que se termine Cannabis Circus, l'émission du Cirque Lyon. Vous pouvez contacter par téléphone au 06 11 53 10 07 ou sur internet, sur le site internet cirque-lyon.fr, cirque-lyon@no-log.org pour notre adresse email. Voilà, on se quitte donc et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau Cannabis Circus. Et maintenant, tout de suite, il arrive en courant, ces chasseurs de son. À tout de suite, à la semaine prochaine.